Europe 1, il est 7h.
C'est une apparition, franchement ça nous fait chaud au cœur, du bonheur.
Au septième jour de grève, le quotidien toujours compliqué pour des millions d'usagers des transports.
Illustration dans un instant à Dunkerque, la gare rouvre aujourd'hui avec un seul train programmé, d'où les apparitions, les perturbations qui se chiffreront en centaines de millions d'euros pour la SNCF. Et pour le gouvernement, l'heure est aux annonces, celle d'Edouard Philippe sur la réforme des retraites. Clarification très attendue dans les rangs de la majorité.
Il faut que le message soit vraiment simplifié et qu'on puisse tous faire le travail d'information auprès de nos concitoyens sur le territoire qui, eux, sont vraiment en attente et qui, pour la majorité, nous disent de ne pas lâcher.
Autre réforme, autre difficulté, les études de médecine, nouvelle version. Pourront-elles vraiment entrer en vigueur à la rentrée prochaine? Information Europe 1 ce matin, les doyens en doutent et demandent des moyens.
Dans ce journal aussi, les villes face à la pollution, Paris au top, Marseille à la traîne.
Et puis des fantômes et de l'amour, Sarah Giraudeau à l'affiche aujourd'hui des Envoûtés.
C'est une histoire d'amour passionnelle qui racontait aussi ce sentiment de jalousie qui est assez difficile à expliquer et qui est très douloureux.
7h01, bon réveil à toutes et à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal Mathieu Béliard, Marion Calais.
Le rendez-vous est fixé midi devant le Conseil économique, social et environnemental. Le discours d'Edouard Philippe pour présenter le détail de la réforme des retraites. Un discours que l'on suivra en direct sur Europe 1. Une prise de parole évidemment très attendue en ce septième jour de grève.
Et malgré des manifestations moins massives, hier, le mouvement reste très suivi, notamment dans les transports. Lionel Gougelot, vous êtes à Dunkerque pour Europe 1 où un seul train est prévu au départ ce matin, après 5 jours de fermeture.
Oui, est-ce que vous entendez derrière moi? Eh bien, c'est le départ du seul TER à grande vitesse à destination de Lille en circulation aujourd'hui, après 6 jours de trafic complètement nul. Un petit miracle pour Nathalie.
C'est une apparition. Franchement, ça nous fait chaud au cœur. Du bonheur.
Il faut savoir qu'entre Lille et Dunkerque, ce sont 3000 voyageurs par jour qui sont perturbés depuis maintenant presque une semaine dans leurs activités.
Oui, c'était voiture, et puis ou à la maison, télétravail pour ceux qui peuvent, mais et on est vraiment pénalisés, ça c'est sûr. Avec aujourd'hui les annonces, je ne sais pas si ça va s'arranger, mais en tout cas on espère.
J'avais entendu des informations sur le fait de décaler, en fait, de passer de 1963 à 75, mais je pense qu'on aura la surprise aujourd'hui.
Stéphanie espère, elle aussi, un déblocage de la situation après les annonces d'Edouard Philippe.
J'espère qu'ils vont écouter la population, parce que je comprends qu'ils font grève aussi. Mais oui, j'espère que ça va bouger, qu'ils vont trouver une solution et que tout le monde sera satisfait des propositions du gouvernement. On va être attentif à ce qu'ils vont dire.
En attendant, ces voyageurs seront de retour à Dunkerque ce soir en croisant les doigts pour un autre train demain matin.
Lionel Gougelot à Dunkerque pour Europe 1. Des gares et des transports en commun au ralenti, voire à l'arrêt depuis près d'une semaine. Forcément, ça pèsera financièrement pour la RATP comme pour la SNCF. Pour Europe 1, Maud Descamps.
À la RATP, on avance le chiffre de 3 millions d'euros minimum par jour de grève, soit plus de 20 millions d'euros depuis le début du mouvement. Mais la facture pourrait être bien plus élevée car la RATP n'a pas encore mesuré le coût des éventuels remboursements de Pass Navigo aux utilisateurs. L'ampleur du remboursement sera discutée en janvier. À la SNCF, on estime que le coût d'une journée de grève s'élève à environ 20 millions d'euros, soit plus de 140 millions depuis jeudi dernier. Cela comprend à la fois le manque à gagner sur les ventes de billets, mais aussi les frais fixes, les remboursements des billets et des abonnements, puisque la SNCF s'est engagée à rembourser ses clients sans frais et sans surcoût. De cette estimation sont également déduits les jours de grève non payés des employés. Et enfin, il y aura aussi le coût pour les entreprises du privé, celles qui ont dû annuler des événements en raison de la grève ou des vols, comme chez Air France. Mais là, il faudra attendre la fin du conflit pour connaître le montant exact de l'addition, même si on sait déjà qu'elle s'élèvera à plusieurs centaines de millions d'euros.
Une précision de Maud Descamps pour Europe 1 et la SNCF, qui prévoit encore des difficultés jusqu'à la fin de la semaine.
Et les syndicats aussi se projettent avec des actions locales annoncées pour demain et une nouvelle journée de manifestation pour mardi prochain.
L'intersyndicale qui demande le retrait du texte n'a donc pas attendu les annonces du Premier ministre Édouard Philippe qui, selon les informations d'Europe 1, devrait annoncer tout à l'heure un report de son application. Ce devait être au départ à partir de la génération 1963, ce pourrait être en fait à partir de 1975 et même 1985 pour les régimes spéciaux.
À midi, donc, la fin du flou sur ce texte et ce n'est pas pour déplaire à la majorité pour Europe 1. Adrien Beck.
enfin une réforme précise à défendre. Dans la majorité, on attendait les arguments concrets. Le temps a été long, confie un marcheur. Entre le flou des dernières semaines, un gouvernement parfois trop techno, ce matin, Édouard Philippe doit donc être clair, demande le député de Moselle, Ludovic Mendès.
Il faut que le message soit vraiment simplifié et qu'on puisse tous faire le travail en fait, d'information auprès de nos concitoyens sur le territoire qui, eux, sont vraiment en attente et qui, pour la majorité, nous disent de ne pas lâcher.
La communication doit être parfaite, insiste un cadre du groupe. Avec quels effets ? C'est en tout cas pas aujourd'hui qu'on va convaincre la CGT et FO, sourit un élu. Mais pourquoi pas rassurer certaines centrales, veut croire le député Jean-François Cesarini.
Il y a des syndicats, et je parlais de la CFDT par exemple, qui, elles attendent sur quelques points des choses effectivement importantes. On l'a dit, le fait que ce soit pas qu'une réforme budgétaire, mais une réforme systémique, et donc la question de la pénibilité. Il va essentiellement parler à eux, à la fois aux Français, mais aussi essentiellement parler à eux.
Mais sur le fond, il n'y aura pas d'annonce magique, a prévenu hier Édouard Philippe. Un député complète, il ne faut pas croire que si le Premier ministre parle à midi, la grève va s'arrêter à midi et demi.
Adrien Beck pour Europe 1.
Et c'est une autre réforme emblématique du quinquennat qui pose problème, celle des études de médecine pour la rentrée prochaine. Fin du numerus clausus, ouverture à des profils moins scientifiques. Ça, c'est ce qu'avait annoncé Emmanuel Macron il y a un peu plus d'un an.
Mais voilà, l'application de ces mesures et notamment la création de différentes voies d'accès à ces études de médecine s'annonce compliqué. Les doyens viennent d'ailleurs d'écrire au gouvernement et vous nous révélez ce matin sur Europe 1 le contenu de leur lettre, Ève Roger.
Dans cette lettre, on lit une immense inquiétude. À quelques jours de l'ouverture du site Parcoursup, le 20 décembre, plus de la moitié des 37 facs de médecine n'ont pas validé leur nouvelle formation. Impossible pour les futurs bacheliers de savoir quelle filière ils pourront choisir en septembre prochain. Une première année axée sur la santé, complétée par de nouvelles matières, ou alors l'autre filière, plus centrée sur le droit, les maths ou les sciences éco, avec une option santé. Dans chaque fac, ce sera à la carte, mais le menu est loin d'être prêt partout, d'où la crainte de Jean Sibilia, le doyen des facultés de médecine, qui signe cette lettre. Le report pur et simple de la réforme.
Si les UMRC ne sont pas prêtes et si ça n'est pas acté, ça sera décalé. En tout cas, on ne demande pas le report de la réforme, mais c'est une option qui est sur la table. Plutôt que de mal faire, faisons bien ensemble pour l'intérêt de nos étudiants.
Manque de temps, mais aussi d'argent. Qui dit nouvelle matière dit aussi nouveaux profs, nouvelles salles, multiplication des examens et pas seulement des QCM corrigés automatiquement grâce à un lecteur optique. Les doyens réclament donc plus de moyens pour l'université. Aujourd'hui, le budget est de 16 millions d'euros. Il en faudrait, disent-ils, trois fois plus.
L'inquiétude des facs de médecine face à la réforme. Donc, information Europe 1 signée Ève Roger. Journée de commémoration à Strasbourg, un an tout juste après l'attentat du marché de Noël qui avait fait 5 victimes et 11 blessés. Des rescapés qui témoignent ce matin sur Europe 1. Comme Martine, une balle s'est arrêtée à quelques millimètres de son cœur il y a un an. Vous entendrez tout à l'heure son témoignage dans le journal de 8h.
Et je vous renvoie aussi vers ce document que nous avons diffusé à 6h40. Témoignage exceptionnel du chauffeur de taxi qui a transporté Shérif Chekat juste après son attentat. C'était à 6h40 au micro de Jeanne Bergaoui et à retrouver sur europe1.fr. Europe 1. Votre journal se poursuit dans un tout petit instant avec des investissements européens pour le climat et des villes plus ou moins actives face à la pollution. A tout de suite.
Il est 7h09 sur Europe 1, la suite du journal. Marion Calais, Mathieu Béliard.
Bruxelles se met au vert avec un grand plan d'action pour le climat.
Bonjour Nicolas Barré.
Bonjour Mathieu.
L'Europe dévoile aujourd'hui son Green Deal qui prévoit 1000 milliards d'euros d'investissement en 10 ans.
Et la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, va le détailler tout à l'heure, ce pacte. Aucun continent de la planète ne fait autant que l'Europe pour viser la neutralité carbone en 2050. Et ce, alors que l'Europe elle-même ne représente que 9% des émissions mondiales de CO2. Ce pacte vert prévoit donc des investissements massifs, 1000 milliards, vous l'avez dit, des objectifs de réduction des émissions de CO2 plus contraignants, passer de moins 40% à moins 50%, voire moins 55% d'ici 2030. Le secteur maritime et l'aviation seront contraints, comme ça existe pour d'autres secteurs, d'acheter des quotas d'émissions de CO2. Et enfin, les quotas s'appliqueront aussi à certaines importations pour ne pas léser les industriels européens.
Et toute la question maintenant, Nicolas, c'est la mise en œuvre de ce pacte.
Voilà, et c'est là que le exemple, pour la réduction des émissions de CO2, il faudra un mandat du Conseil et l'unanimité des 28. Ce n'est pas avant octobre 2020 que Bruxelles détaillera son plan en la matière, c'est-à-dire pas avant la COP26, alors que la COP25 a lieu en ce moment à Madrid. Autre exemple, le plan à 1000 milliards sera négocié dans le cadre du budget européen et ce sont les États qui auront le dernier mot. En clair, il va se passer beaucoup de temps avant que ce pacte vert ne soit finalisé, du temps que les lobbies concernés, fort logiquement, utiliseront pour l'amender l'urgence climatique, c'est une chose, le temps bruxellois en est une autre.
Ouais, le temps long européen, c'était l'éclairage de Nicolas Barret, directeur de la rédaction des Échos.
C'était l'éclairage Écho avec Région Job et Paris Job. Trouvez le job qui va vous faire aimer le lundi sur Région Job et Paris Job.
De la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre à la lutte contre la pollution urbaine. L'échelle continentale et l'échelle des villes, ce n'est pas qu'un enjeu climatique finalement. C'est aussi une question de santé publique. 48 000 morts liées aux particules fines en France chaque année, avec des réponses politiques plus ou moins ambitieuses.
Bonjour Sarah Fayol.
Bonjour.
Vous êtes porte-parole climat et transport chez Greenpeace et vous dévoilez ce matin un classement des 12 plus grandes villes françaises en fonction de leurs actions pour la qualité de l'air. Les bons points, ils sont pour qui ?
Alors, il y a un certain nombre de villes qui sont en tête du classement, comme Paris, Strasbourg, Grenoble. Ce qu'il faut retenir, c'est que, de manière générale, aucune des 12 grandes agglomérations qu'on a étudiées dans ce classement présente un bilan parfait en matière de lutte contre la pollution de l'air et de mobilité durable. Et même les villes qui sont en tête du classement ont des points faibles et des incohérences et elles doivent toutes, en fait, redoubler d'efforts pour lutter contre la pollution de l'air.
Pour continuer sur le classement, en queue de peloton, on est dans le sud du pays, hein.
Oui, c'est vrai qu'en queue de peloton, on a Montpellier, Nice et Marseille. Ce qu'on a constaté dans ces trois villes, c'est un retard un peu généralisé sur l'ensemble des thématiques qu'on a prises en compte dans le classement, c'est-à-dire la sortie des véhicules polluants et la réduction de la place de la voiture, la mise en place d'alternatives à la voiture et la mise en place d'aides financières pour accompagner les habitants et les mesures spécifiques pour protéger les enfants de la pollution de l'air.
Voilà, donc les conditions et les ambitions contrastées des villes face à la pollution. Merci Sarah Fayol, porte-parole climat et transport chez Greenpeace, d'avoir été en direct avec nous ce matin.
Dans un instant du cinéma, avec des fantômes au cœur des Pyrénées, Les Envoûtés, film entre romance et fantastique qui sort aujourd'hui en salle avec Europe 1.
À 7h14, le journal se poursuit sur Europe 1. Mathieu Béliard, Marion Calais.
De l'amour aussi, un peu, dans ce journal, avec un film qui sort aujourd'hui en salle. Film Europe 1, Les Envoûtés, entre Paris et les Pyrénées. Pour Europe 1, Mathieu Charrier.
Les Envoûtés est un film de fantômes, mais sans fantômes, en tout cas sans effets spéciaux. Et c'est ce qui fait toute sa beauté. Sarah Giraudeau joue Colline, journaliste pigiste à Psychologie Magazine, envoyée par sa rédactrice en chef dans les Pyrénées, à la rencontre de Simon, jeune peintre ermite, incarné par Nicolas Duvauchel, qui déclare avoir vu le fantôme de sa mère décédée comme une apparition. Colline doit enquêter, d'autant que sa meilleure amie dit avoir vécu la même chose.
Je fais peur.
Je connais quelqu'un à qui la même chose est arrivée. C'est même pour ça que je suis là.
À partir de là, le réalisateur déroule un film à la lisière du fantastique, qui est une réflexion sur le deuil, sur l'esprit, sur la jalousie aussi, car Colline va tomber amoureuse de Simon et devenir terriblement jalouse. C'est notamment ce point de l'histoire qui a séduit Sarah Giraudeau.
C'est une histoire d'amour passionnelle qui racontait aussi ce sentiment de jalousie, qui est assez difficile à expliquer et qui est très douloureux.
Et Les Envoûtés est adapté de la nouvelle d'Henry James, Les Amis de mes amis. Un film au romantisme brûlant qui devrait envoyer une nouvelle fois Sarah Giraudeau dans la course au César.
Mathieu Charrier, Les Envoûtés, sorti en salle aujourd'hui avec Europe 1.
L'amour au cinéma et l'amour vache en revanche entre Lyon et ses supporters. Malgré une qualification hier soir pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, les joueurs se sont fâchés avec leurs fans après que l'un d'eux a brandi une banderole hostile à un joueur.
Marion Calais pour le journal de 7h sur Europe 1. Un nouveau journal à 7h30 tout à l'heure avec Hélène Zélani.